Oh là là, qu'est-ce qui se passe sur votre caméra, Annie? Elle bouge. La caméra n'est pas stable. Alors, on va parler un peu de... J'ai l'intention de faire deux séances, a priori deux, sur Purim, et puis ensuite des séances sur Pessah. On va mettre en sommeil donc le cours du Maral, le Sefer du Maral. Alors, comme vous savez, la mitzvah de Mechiat Amalek, a priori, elle incombe au roi. Et les premiers rois qui étaient concernés par ça, c'était donc Shaoul et puis David Amelech. Shaoul, ça lui a coûté la royauté parce qu'il n'a pas fait ce qu'Hachem avait demandé. Et celui qui a oint d'abord ses rois et celui qui leur a effectivement redonné les directives pour régler le problème d'Amalek, c'est le prophète Shmuel. Et le prophète Shmuel, comme chacun sait, il est né. C'est un enfant de Hana. Et Hana, elle a au départ, mais à un moment donné, quand elle en peut plus, quoi, de toutes ses prières pour avoir un enfant, et elle finit par, elle atterrit dans le Mishkan, descendant du Mishkan. Et le Kohen Gadol, à l'époque, c'est Eli avec un Aïn. Et Eli voit cette femme-là qui pleurniche. Et alors, il sait pas ce que c'est. Alors, il a interrogé, comme vous savez, les Urim et Thummim, c'est-à-dire, il y avait donc un système de pierres précieuses qui s'allumaient en quelque sorte. On posait une question, la réponse, elle venait par les lettres. Seulement, évidemment, quand vous avez une réponse par des lettres, il faut encore arranger les lettres pour faire un mot. Et le pasouk dit que Élie Élie le Shikoura. Élie, il l'a prise pour une souillon. Il pensait qu'elle était ivre. Et on dit que c'est l'explication du Gaon, qu'en réalité, pour la prendre comme ça, comme une souillon, c'était la résultante de ce qu'il avait demandé. Il ne savait pas ce qu'il en était. Et sur son roshen, donc sur son vêtement de travail de Kohen Gadol, et il a eu une réponse et il a lu cette réponse, Shikura, Shin Kaf Reishei. Mais le véritable tsirouf, le véritable arrangement des lettres, donnait Kshera, Kaf Shin Resh Hei. C'est un autre arrangement. Et c'est pour ça que quand il l'a traité de souillon, Hana lui a dit Lo Adoni. Non, mon Seigneur. Et la Gemara, elle dit que la Gemara est Doreshet, elle interprète le Lo Adoni de Hana par Lo Adonata Bedavarze. Tu n'es pas le maître dans ce domaine. Shelo Sharta Alecha Ruach HaKodesh. Tu n'as pas eu la bonne inspiration. Tu n'as pas eu de Ruach HaKodesh quand tu as décidé d'interpréter ces lettres comme Shikura. Tu n'as pas fait ton job, en quelque sorte. Rachel disent que ici commence quelque chose qui a à voir avec l'histoire d'Amalek. Pourquoi? Parce que de cet épisode-là est né Shmuel. Donc c'est à cette prière-là qu'Hachem a répondu et elle a enfanté, donc et ça a donné Shmuel, qui est le prophète qui a ordonné de faire la guerre contre Amalek. En d'autres termes, il faut l'interpréter de cette manière-là, après le Gaon. Tant qu'il y a Amalek dans le monde, alors Amalek empêche de faire les bons arrangements de l'être. C'est seulement quand Amalek sera effacé, alors il y aura effectivement une simcha qui a à voir avec une certaine forme d'ébriété, effectivement, de la kshéra, en quelque sorte. Et tout ça, c'est seulement après. D'une certaine manière, l'ébriété, elle est incluse dans le message de Urim v'Thummim. Mais il ne faut pas le lire maintenant, parce que si tu le lis maintenant, tu crois que ça concerne Chana. Et l'ébriété, elle concerne quelque chose qui va venir après, qui va venir quand on va dire que on doit boire ad de l'oyada, à boire jusqu'à ne plus savoir la différence entre Arour Haman et Baruch Mordechai. Entre maudit soit Haman et béni soit Mordechai. Et pour ne pas savoir la différence, alors on aura besoin de boire un peu. Si vous voulez, je ne vais pas entrer maintenant dans la discussion à ce sujet-là, mais c'est un peu compliqué d'essayer de comprendre c'est quoi le problème. Tous les deux, que ce soit Arour Haman ou Baruch Mordechai, tous les deux mènent à la bonne solution, à l'annulation du décret d'Aman. Parce que Aman n'existe plus, bien parce que Mordechai est au pouvoir et il a le pouvoir d'annuler, enfin de contrer il peut pas l'annuler, mais il peut contrer les décrets d'Aman. Dire au Bnei Israël, eux, ils ont reçu des décrets qui leur permettent de vous tuer. Levez-vous avant eux et tuez-les. C'est comme si aujourd'hui on demandait, est-ce qu'on est capable de considérer que c'est la même chose de dire Arour Poutine et Barour Zelensky? Je ne sais pas, bon, c'est sans vouloir prendre une position quelconque dans cette affaire, mais on comprend bien qu'a priori, ce n'est pas la même chose. On peut expliquer ce que Hana lui a dit. Lo Adon Ata, tu n'es pas le Seigneur, tu n'es pas le maître de cela. C'est-à-dire que tu n'es pas maître parce que tu n'as pas de Ruach HaKodesh. Pour savoir quelle est la véritable signification du message de Urim Vetumim. Le mot Adon qui est utilisé ici par Hana, ce mot Adon ici, Chazal l'utilise par exemple dans sur le pasouk de Yoshua, il est Adon Kol Haaretz, le maître du pays. Là-bas, Chazal explique c'est quoi? C'est celui qui peut organiser en quelque sorte les déplacements de personnes. Il peut enlever les habitants d'ici et les mettre là-bas et mettre les habitants de là-bas ici. C'est-à-dire, en fait, justement, prendre des lettres et les mettre ici ou les mettre là-bas. Elle lui a dit « Lo Adonata ». C'est-à-dire, il n'y a pas de shrina sur toi pour arriver à trouver la bonne combinaison des lettres en question. Nous, quand on prie, nous ne savons pas toujours, ou nous ne savons pas en général, justement tous les tsirufim qu'on peut faire. Mais d'une certaine manière, toutes les combinaisons de lettres. On laisse les choses à Hachem. Au début de la Shemoneh Esrei, on dit Hachem Sfatai Tiftach. Mais Hachem Sfatai, c'est un Lashon Adon. C'est-à-dire qu'on lui demande à Hachem de développer par lui-même, d'arranger par lui-même les lettres qui vont sortir de nos lèvres. Il y a donc un pouvoir, une puissance dans les lettres. Les lettres, c'est quelque chose de complètement inerte. C'est matériel. Et pourtant, ces combinaisons de lettres permettent d'atteindre des sommets absolument extraordinaires. Le Nefesh HaChaim, il explique que les mots de la tefila, ils sont tels que, en arrangeant l'ordre des lettres de la tefila, ça contient toute la kedusha qui va exister dans le monde et qui doit exister dans le monde jusqu'à la fin des temps. Donc, notre simcha à nous, au moment du Had de l'Oyada, jusqu'à ce qu'on ne sache plus la différence, ça montre une kedusha du corps, parce que c'est le corps qui s'enivre, du corps juif, en fait, qui se met dans un état de où il n'a plus de date, il n'y a plus vraiment de discernement. Et néanmoins, tout ce qui va se passer en haut dépend de cette personne-là. C'est-à-dire là, on sait que la Kdusha, quand la Kdusha saisit quelque chose, donc que ça s'appelle Kdusha Taguf, la Kdusha d'un morceau de viande ou la Kdusha etc., de quoi que ce soit, cette Kedusha, elle ne s'en va pas gratuitement sans qu'il y ait une procédure. Et donc, pourquoi? Parce que si elle s'est enracinée dans un corps, dans un objet, elle n'en sort pas. Donc c'est la raison pour laquelle sur Purim aussi, il est dit que Yemei Purim lo yavru mitoch hayudim, que les gens, les jours de Purim ne disparaîtront pas chez les Juifs. Et donc, nous, notre espoir, évidemment, c'est que ces lumières qui nous restent, qui vont rester, qui nous restent de Purim de l'année dernière, qui vont rester de Purim qu'on va faire, qu'elle reste éternellement, en quelque sorte. Qu'elle reste éternellement vivante, quoi. Qu'elle reste éternellement là, parce que ça permet des combinaisons, ça permet de fabriquer des choses extraordinaires dans les mondes supérieurs. Une chose qui nous dépasse complètement, bien sûr. Ça, c'est la force des mitzvot, la force de ce qu'Hachem nous demande. C'est-à-dire que Hachem donne des mitzvot. Excusez-moi. Donc, avec les mitzvot, HaKadosh Baruch Hu nous permet de faire des choses, de dire des choses qui ont un impact qui dépasse largement ce que nous serions capables de faire par nous-mêmes. HaKadosh Baruch Hu amplifie nos gestes, nos paroles, nos pensées, de telle sorte qu'elles aient cet impact sur les mondes supérieurs, donc aussi sur nous, finalement, ça redescend comme une espèce de boomerang. Donc, on a ce problème de tsiruf haotiot, c'est-à-dire la combinaison des lettres. On a déjà vu cette histoire de combinaison des lettres, parce que c'est ce qu'on nous dit de Bezalel, que Yada Bezalel et Saref haotiot Shebaen Nivra Olam. Que Bezalel, quand il a construit le Mishkan, il a appliqué une règle. D'abord, il faut savoir que selon la Torah, on considère que le monde a été créé avec des lettres. Tandis que la Torah, toute la Torah, en fait, c'est une suite de lettres. Et dans cette suite de lettres, elle peut donc se couper des morceaux, fabriquer des mots, des phrases, etc. Mais on peut aussi découper cette suite de lettres de telle sorte qu'elle soit une suite de noms divins. Cette combinaison de lettres, c'est ce qui a permis la création du monde. Hachem a été Metzaref Otiyot et ça a créé le monde. Et Bezalel savait faire cette combinaison. Et c'est ce qui lui a permis de construire le Mishkan, puisque le Mishkan, c'est un mini-monde. C'est la résidence d'Hachem, mais La région d'Hachem, c'est le monde entier. Donc, c'est ce mini-monde. Il faut qu'il soit construit comme le monde. Donc, il est construit avec les mêmes tsiroufé otiot, les mêmes combinaisons de lettres que celles qui ont été nécessaires pour construire le monde. Donc, mettre ensemble des lettres, c'est quelque chose qui est resté dans le clan d'Israël comme une possibilité des hommes. Alors, on en a un exemple avec le Kohen Gadol, qui en général, donc, il a ce fameux système-là d'illumination des lettres comme réponse à ces questions. Et puis, il y a, comme l'a dit le Rebbe de Volozhin, ceux qui ont fabriqué la tfila telle que nous l'utilisons, la disons, c'est les Anshei Knesset HaGdola. Anshei Knesset HaGdola, c'est une assemblée de 20 personnes qui a existé avant la notion de Sanhedrin. C'est Anshei Knesset HaGdola, c'est une assemblée dans laquelle il y avait des Nevi'im encore. Dans cette assemblée, il y avait Mordechai, par exemple. Et tout à la fin de cette assemblée, l'existence de cette assemblée, il y a le fameux Shimon HaTzadik, qui était Mishiarek. Il faisait partie des quelques personnes qui ont survécu à cette fameuse à grande assemblée, en fait. Donc, eux, ils avaient cette inspiration qui leur a permis de fabriquer des mots, d'accord, qui sont tellement riches que ces mots-là, on les dit trois fois par jour, tous les jours de l'année, les hommes, les femmes, dans tous les siècles. Dans toutes les circonstances, c'est toujours les mêmes mots. Et ces mots font le travail qu'ils doivent faire, qui n'est évidemment pas du tout toujours le même travail. On ne prie pas de la même manière en période de guerre, en période de paix, en période de moisson ou en période de semaille. Et pourtant, c'est toujours les mêmes mots. Ça veut dire qu'ils savaient, eux, utiliser des lettres dont ils savaient très bien que si on les arrangeait d'une autre manière, ils seraient toujours assez adéquats, mais nous, nous ne savons pas faire. Alors nous disons à Hachem, voilà, nous on dit ça et on s'en remet à toi pour que tu arranges les lettres de la façon qu'il faut au moment où il le faut. C'est intéressant que ce soit ce problème-là, d'une certaine manière, qui soit en rapport avec Amalek. C'est-à-dire, c'est ce problème-là qui était, comme on vient de le voir, qui était en cause au moment de la prière pour la conception de Shmuel, qui est le prophète qui s'occupe de la destruction d'Amalek, qui va oindre les rois qui auront la charge de s'occuper de la destruction d'Amalek. Donc, quelque part, cet arrangement-là, qui est le fonctionnement du monde, d'une certaine manière, il nous montre que le problème d'Amalek, c'est pas du tout un problème comme les autres. Amalek n'est pas un peuple parmi tous ceux qui nous ont attaqués. Amalek, c'est un peuple qui nous a attaqués, mais c'est une parcha entièrement pour soi, Amalek. On ne dit sur aucun autre peuple ce qu'on dit sur Amalek. Et en plus, il y aura évidemment toujours un problème, c'est supposer que à un moment donné, on règle le problème d'Amalek. Supposez que, par exemple, Shaoul ou David aient éradiquer Amalek. Les mitzvot de la Torah elles sont éternelles. Amalek éradiqué, qu'est-ce qu'elle me dit la mitzvah de Timché Zecher Amalek Lotishkach? Qu'est-ce qu'elle me dit à ce moment-là? Donc on est obligé de dire que le problème d'Amalek, c'est un problème qui va bien au-delà de l'Amalek destructible dans le monde. C'est quelque chose qui a l'air d'appartenir à la structure même de la création. Donc ça veut dire qu'il faudra encore étudier, essayer de donner du sens à ce Timché Zecher Amalek, même quand on aura réglé le problème d'Amalek. Parce que la mitzvah, elle reste tout le temps. Or, il n'était pas question de dire que Shaoul ne pouvait pas ou David ne pouvait pas détruire Amalek. Si on dit qu'il ne pouvait pas, pourquoi on leur a demandé de le faire? Si on dit que Amalek doit, a priori, Amalek a l'air d'être un problème qui va nous accompagner tout le temps. Mais alors, s'il doit nous accompagner tout le temps, alors pourquoi on a demandé à Shaoul? Est-ce que ça voulait dire que si Shaoul l'avait fait, l'histoire était terminée? Si David l'avait fait, l'histoire était terminée? Ou non? Quelqu'un peut faire ce travail, un roi pourra faire le travail, pourrait faire le travail, aurait pu faire le travail, sans que pour autant la Torah on n'ait plus de mitzvot à faire. Ça veut dire, quand on sera dans Olam Haba, on n'a plus de mitzvot à faire. Le mitzvot s'est fait dans Olam Hazé, là Olam Haba, il n'y a plus de mitzvot à faire, c'est trop tard. On est dans le monde du salaire, on n'est plus dans le monde de l'action. Et donc, jusque-là, les mitzvot sont en vigueur. Alors, ou bien, ça fait partie des axiomes quasiment que, comme c'est marqué, c'est Milchama, l'Hachem contre Amalek, Midor, Dor, toutes les générations. C'est vrai, bon, ça veut dire, tant que c'est pas fait, ça dure. Mais quand ce sera fait, ce sera terminé, non? Mais pas du tout, la mitzvah, elle continue. Il faudra trouver comment interpréter cette mitzvah. Et donc, si elle continue, ça veut dire que le problème, quand on dit Timché et Amalek, nous, on a l'impression qu'Amalek, c'est un peuple bien précis et qu'on peut le détruire. Alors ça, c'est déjà complètement faux. Initialement, Amalek, c'était effectivement un peuple. Et pour bien qu'on comprenne peut-être ce côté incompréhensible du rôle d'Amalek, il faut juste se souvenir, juste pour mémoire, se souvenir du comment il naît Amalek. Vous savez bien, Amalek, c'est le fils de Timna et d'Eliphaz. Eliphaz, c'est le fils d'Esav. Et Timna, c'est la princesse. C'est une princesse qui veut à tout craint. Elle veut absolument entrer dans la famille. Et il lui arrive quelque chose qui n'est arrivé à personne d'autre. Refusée par Abraham. On n'a pas d'autre exemple de candidat voulant s'approcher des valeurs d'Abraham. Refusée par Abraham. Elle l'a refusée. Elle a essayé Yitzhak, elle a essayé Jacob. Refusée. Elle a même essayé Esav, refusé. Finalement, Esav, il accepte de la prendre pour concubine de son fils Eliphaz. Elle n'est même pas épouse d'Eliphaz, elle est seulement sa concubine. Alors, c'est sa façon à elle d'entrer dans la famille. Avec ce que ça a donné, on se demande si on... Ou bien on se dit, on a bien fait de ne pas la prendre, voir vu ce qu'elle a été capable de produire, ou alors que peut-être il aurait mieux valu l'avoir à l'intérieur plutôt que la laisser à l'extérieur produire Amalek. Donc c'est une énigme On ne sait pas pourquoi les Avot n'ont pas voulu de Timna. On ne sait pas. Et peut-être, justement, c'est ça l'idée. On ne sait pas pourquoi, ou on ne dit pas parce que c'était essentiel qu'Amalek soit produit. Et il ne pouvait être produit que par une femme qui voulait avoir un lien avec Israël, si on veut, avec le peuple d'Israël, et qui n'a pas été acceptée, qui par conséquent est allée de l'autre côté, ça ne marche pas de ce côté-là, elle est allée chez les ennemis d'Israël. Et elle a produit Amalek, qui est la pointe avancée d'Esav. Donc, c'est presque, à la limite, presque cohérent avec le fait que Amalek il n'est pas dans le monde, en quelque sorte. Il attaque pour des raisons qui n'existent pas dans le monde. Tous les peuples sont quasiment paralysés par ce qu'ils ont entendu de la sortie d'Égypte, du passage de la mer. Personne ne bouge. Israël va son chemin, personne ne l'attaque. Amalek, il attaque. Pour aucune raison. Il attaque Israël parce que par le principe, il faut attaquer. Il n'est pas possible qu'Israël soit inattaquable, en quelque sorte. Tout le monde peut être attaqué. Donc, Israël n'a pas de statut à part. Il lui est arrivé des trucs, ok, c'est contingent, c'est arrivé, c'est passé comme ça. Il y a juste eu un bon coup de vent au passage de la mer, et il y a eu une révolution de je ne sais pas quoi, de palais et tout, qui a permis au peuple d'Israël de sortir d'Égypte. C'est comme ça qu'Amalek, pendant, se raconte l'histoire. Pour lui, il n'y a rien de... Amalek, c'est le letz par excellence, c'est-à-dire c'est le bonhomme qui prend, enfin le bonhomme, le peuple, le bonhomme, donc le peuple, qui ne prend rien au sérieux. Rien, sérieux. Alors, est-ce que les Hachamim ont eu peur, enfin, est-ce que les Avot ont eu peur d'introduire une femme qui ne prend rien au sérieux? Est-ce que c'était déjà chez elle, chez Timna, cette idée de rien prendre au sérieux? Ou est-ce que c'est seulement la combinaison avec Esav? Avec le fils d'Esav, qui a donné cette mixture qu'on appelle Amalek. C'est pas très clair. Mais il y a un Chazal qui dit que HaKadosh Baruch Hu avait en quelque sorte juré qu'on n'accepterait pas les guérim venant d'Amalek. Si quelqu'un veut se convertir, pratiquement d'où qu'il vienne, on l'accepte. Donc, il y a le problème des hommes de Moab, parce qu'ils se sont vraiment disqualifiés. Mais en gros, et pourquoi? Mais Amalek, non. Mais ce n'est pas écrit. Moab, c'est écrit dans la Torah qu'on ne les prend pas. Donc, il y a vos Moabi. Mais Amalek, ce n'est pas marqué dans la Torah. Et néanmoins, le Midrash présente, Hazal présente les choses, comme un serment de la part d'Hachem. Hachem a fait le serment qu'on ne les accepterait jamais. Or, comme vous savez, tout le monde sait que Bnei Banav Shelaman, l'Amdu Torah Bnei Brak, il y a des descendants, des petits-enfants de Haman qui ont étudié la Torah, à Bnei Brak en particulier. Comment c'est possible? Si on a, c'est l'égoïme. Comment on a fait pour qu'ils étudient la Torah? Ils se sont convertis, mais on n'avait pas le droit. Alors on explique que, en réalité, Le problème d'Amalek, disons, le problème de la non-acceptation d'Amalek, c'est le Beth Din n'a pas le droit de les accepter. Hachem a joué. D'après la loi, c'est le Beth Din ne les accepte pas. Mais il a été possible, c'est-à-dire qu'Hachem ne s'est pas opposé à cela, que des gens viennent se convertir et que le Beth Din ne sache pas qu'ils sont d'Amalek. Et donc, ils ont passé, ils ont été convertis parce que le Beth Din ne le savait pas. Est-ce qu'eux le savaient qu'ils étaient descendants d'Amalek? J'en sais rien. Peut-être même eux ne le savaient pas. Mais voilà, de facto, ils sont là. Et on n'a pas remis en cause leur lieu. Pourquoi? Parce que visiblement, il y avait quelque chose dans la conduite de ces gens-là qui faisait qu'on devait les accepter. Alors, il y a les Chazal qui expliquent que le Timchet Zecher Amalek, tu vas effacer le souvenir d'Amalek, Mitachat HaShamayim, en dessous des cieux. En dessous des cieux, ça veut dire dans ce monde-ci. Mais si jamais il y a quelque chose d'Amalek qui est au-dessus des cieux, si on parle comme ça. Cette idée d'Amalek, elle, elle a peut-être le droit de citer. Pourquoi? Parce qu'elle correspond peut-être à un certain niveau, ça correspond à quelque chose d'important. C'est une question générale sur la création ou sur l'existence du mal. C'est bien sûr Hachem qui a créé le mal. Maintenant, évidemment que Hachem n'a pas créé le mal comme étant quelque chose qui allait avoir une vie pour soi qui sera toujours opposée au bien. Il y a une création du mal, parce qu'on a besoin du mal pour faire apparaître le bien. On a besoin de l'obscurité pour faire apparaître la lumière, l'esclavage pour faire apparaître la liberté, etc. Donc quelque part, à un certain niveau, le mal, Amalek, à partir d'une certaine manière, il a un rôle à jouer. Mais il a un rôle à jouer seulement comme idée, mais pas pour la réalisation concrète. Si on le descend à Tachat HaShamayim, si on essaie de, si ça se réalise concrètement dans le monde, à ce moment-là, il faut l'effacer. Mais comme idée, ça peut avoir ça a son intérêt. Amalek, c'est ce fameux peuple-là qui a le courage ou le culot de s'opposer à Israël dans la mesure où Israël apparaît comme, à ce moment-là, le peuple d'Hachem. Le Maharal explique les choses de la manière suivante. Il dit, tous les peuples qui se lèvent contre Israël, l'opposition de ces Umot HaOlam-là contre Israël, c'est, dit Maharal, une opposition du type principe féminin contre principe masculin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le principe féminin, c'est, disons, c'est un principe de réception. Le masculin, c'est un principe d'émission. Et donc, quand le féminin et le masculin se mettent d'accord, ils travaillent bien ensemble, alors il y a émission et réception. Et puis, il peut y avoir une révolte du récepteur qui dit « je ne suis pas intéressé par recevoir ce qu'émet le principe masculin en question. » Les Umot HaOlam, ils savent bien qui est Abraham, ils savent bien qui est le clan d'Israël. Mais ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas de ces valeurs-là. Quand il y a la fameuse guerre des quatre contre les cinq rois, quatre rois contre cinq rois, qui font prisonnier Lot, ils sont archi contents. Ils ont cru que c'était Abraham. Ils disent, c'est fini, il arrêtera de nous casser les pieds avec ses valeurs, etc. Ils savent bien que ce sont des valeurs importantes, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas de ces valeurs, parce que ces valeurs, elles disent, il faut accepter la royauté d'Hachem. Et eux, ils disent non, nous, on veut faire ce qu'on veut. On ne veut pas accepter la royauté d'Hachem. Donc, les Bnei Israël qui nous saoulent avec ces valeurs, Abraham, etc., on refuse. Et si on peut le tuer, ben c'est mieux, ça. Il arrêtera de nous casser les pieds. Et quand ils s'aperçoivent que l'autre n'est pas Abraham, ils se disent, mais si on garde l'autre suffisamment prisonnier, Abraham, il ne va pas rester les bras ballants, il va venir faire la guerre, on va pouvoir le tuer. Et donc, ils sont très contents. Ça marche, ça se passe pas comme ils voulaient. Et c'était ça leur projet, ils étaient très contents. Mettre fin à ces théories, Nimrod, il ne supporte pas. Le monde entier est rassuré et est rassemblé contre ces théories-là. On va aller faire la guerre à Hachem. Donc, la guerre des peuples contre Israël, c'est que Israël a une espèce de prétention d'avoir des valeurs, et disent nous, on ne veut pas de ces valeurs. Et donc, on va faire la guerre à Israël. Et c'est la guerre d'un principe féminin contre un principe masculin. La guerre contre Amalek, c'est la guerre d'un principe masculin contre un autre principe masculin. Pourquoi ? Parce qu'Amalek, il pense, d'une certaine manière, on peut le dire très court, il pense qu'Israël, c'est lui. Bon, ça sonne des choses, ça sonne pour certaines, c'est des choses connues, mais voilà, c'est ce qu'Amalek pense. Et pourquoi il pense ça? D'ailleurs, les Chazal, quand ils veulent dire ça, que c'est vraiment un principe masculin contre un principe masculin, il dit que Amalek, quand il a attaqué Israël, il a attaqué ceux qui tenaient la Torah de façon refouilla, c'est-à-dire ils tenaient la Torah de façon très lâche. Donc ils sont un peu sortis des nuées qui les entouraient, les protégeaient. Et c'est ceux-là là, qui étaient en queue de peloton, qui ont été attaqués qui ont donné prise, en quelque sorte, à Amalek. C'est comme ça qu'Amalek a attaqué. Les Chazal disent qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ben, ils ont attaqué ces gens, ils ont essayé de les sodomiser. C'était bien un problème d'un principe mâle contre un principe mâle. Une façon d'exprimer les choses. Israël ont la prétention d'être ce qu'on appelle la Tsurat Adam, la forme humaine qu'Hachem veut. Mais Amalek, il pense, la forme humaine qu'Hachem veut, c'est moi. Et ils exigent ça contre Israël, évidemment. Donc c'est un conflit de mashpia contre un mashpia. Un émetteur, un influenceur contre un influenceur, un émetteur. Et c'est la raison pour laquelle Chazal dit qu'il ne peut jamais être toutes les deux en haut. Si un est en haut, l'autre est en bas. Obligatoirement. Mais la question qui se pose, c'est mais d'où vient leur force de faire une chose pareille? Et pourquoi? C'est quoi? Pourquoi les autres peuples ils pensent pas comme ça? Pourquoi eux ils ont cette idée-là? Alors, le Gaon explique comment on peut comprendre ça. Il dit voilà, le clan d'Israël, il est fabriqué par les Shvatim, par les tribus. La tribu essentielle parmi les tribus du clan, les 12 tribus, c'est la tribu de Lévi. Quand Yaakov descend en Égypte, il envoie Yehuda, la tribu royale, pour arranger les choses. Il envoie Lévi comme Rosh Yeshiva. Donc, c'est la fonction essentielle des Israël d'étudier la Torah. Celui qui est le Rosh Yeshiva, c'est Lévi. Et de fait, Lévi ne sera pas réduit en esclavage. La tribu de Lévi ne devient pas esclave. Et quand Rambam dit que en Égypte, on a pratiquement tout oublié de l'enseignement d'Abraham. Et oui, pratiquement tout. Mais les seuls qui se rappellent de quelque chose, c'est la tribu de Lévi. Donc, l'essentiel dans les tribus, c'est Lévi. L'essentiel dans les descendants de Lévi, c'est Kehat. L'essentiel dans les descendants de Kehat, c'est Amram. Et l'essentiel dans les descendants d'Amram, c'est Moshe. Donc on a ce quatuor là, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Et le Gaon dit, regardez, si on prend les premières lettres de chacun, ça nous donne les lettres avec lequel on peut écrire le mot Amalek. Le Lamed de Lévi, le Kouf de Kehat, le Aïn de Amram, et le Mem de Moshe. Et si on prend les dernières lettres de ces quatre noms, le Yud Tav, Mem et He, ça fait Mita, ça fait la mort. Il y a un pasouk dans les fameuses bénédictions de Bilham, quand il a parlé de Amalek, il a dit que Amalek, il était Reshit Goim Amalek, Vaharito Adeoved. Amalek, il est en tête, il est la tête, le roche de Goim. Bon, il est celui qui est à la tête des Goïms, c'est lui qui attaque, qui montre qu'on peut attaquer Israël. Mais sa fin, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'est pas un vrai premier. C'est vrai que Bilaam a dit qu'il était réchite. Et de, sur ce plan-là, il est en concurrence avec Israël. Israël est appelé réchite aussi, mais par le prophète Irmeia. Donc, Amalek est appelé réchite par Bilaam, par le prophète des nations, en quelque sorte. Et Israël est appelé réchite par Irmeia. Réchite Tevouata. Donc, ils sont en conflit de Réchit, en fait. Donc, ils sont vraiment en opposition à Israël sur le fait d'être Réchit. Mais comme leur réchit à eux n'est pas un vrai réchit, alors leur fin, c'est de mourir. Alors, si on réfléchit encore un peu plus dans ce, sur cette force qu'ils ont, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il l'a créé avec un corps, avec un gouffre et avec une neshama. Un couple, neshama, gouffre. La neshama, c'est le côté spirituel, et le corps, le gouffre, c'est le côté matériel. En fait, dans la Torah elle-même, il doit aussi y avoir ce couple, quelque chose qui correspond à ce couple. Parce que si ça n'existe pas dans la Torah, ça ne peut pas exister dans le monde, puisque la Torah est le plan du monde. Alors, c'est quoi le couple en question dans la Torah? C'est les deux parties de la Torah Shebirtab et la Torah Shebaalpeh. Dans la Torah Shebaalpeh, la Torah Shebirtab, elle correspond à la lumière de la neshama, en quelque sorte. La Torah Shebaal Peh, elle correspond au corps. La Torah Shebichtav, elle est claire, elle est écrite de façon définitive devant nous. Il y a rien de caché, en quelque sorte. Dans la Torah Shebichtav, voilà, elle est lisible immédiatement. On comprend ce qu'on comprend, mais tout est lisible. Et pour la lire, on n'a pas besoin de faire un effort, il suffit de lire. Si quelque chose dans la Torah doit faire l'objet d'un gros travail, de gros efforts, il appartient à la Torah Shebaal Peh. Parce que la Torah Shebaal Peh, c'est une partie de la Torah qui ne se dévoile que grâce à, en quelque sorte, à ce qu'on casse le corps, on casse toute cette résistance matérielle. En fait. Comme on sait, l'Aneshama, c'est Chelek Eloka Mimal, et c'est Chelek Eloka qui est dans le corps, qui est dans l'homme. Donc, c'est complètement transparent. La Torah, elle est Théora, il n'y a rien à... Il n'y a pas à trier, c'est tout y est. Et de plus, comme, en fait, la Neshama, elle n'est pas abîmée par les fautes que l'homme fait. Quand quelqu'un fait des fautes, elles touchent son niveau nefesh, éventuellement son niveau ruach. Mais le troisième niveau, qui s'appelle le shama, il n'est jamais touché par les fautes. Donc, c'est le propre de la Torah chez Bichtav. La Torah chez Balpé, c'est une Torah qu'il faut arracher en quelque sorte. Elle est cachée, il faut aller la. Il faut aller la chercher, il faut l'émettre, il faut arriver à la trouver. Donc, si quelqu'un arrive à trouver cette Torah grâce à ses efforts, il dévoile une Torah qui est en vérité enfouie, comme disons, dans les profondeurs, si on peut parler comme ça. Dans le gouvernement, dans le fonctionnement du monde, ça se passe aussi comme ça. Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde ce qu'on appelle les lois de la nature, en fait. C'est-à-dire, il dévoile sa lumière simplement dans la nature. On n'a qu'à regarder les choses. Bon, là, il y a le tachlit, en fait, le but de l'exercice de la Torah et de la création. C'est-à-dire, il s'agit de dévoiler la lumière intérieure de la chaîne. Et ça, c'est-à-dire que on a besoin enfin, il y a un travail pour montrer la brillance, montrer la clarté de la lumière divine. Et ça se fait en dévoilant la Torah. La lumière, la lumière en question, elle est dans la Torah. Il faut aller la creuser, y compris dans la nature. En fait. Si on va plus profondément, on a cette lumière. Maintenant, la racine de ces deux façons de gouverner le monde. Torah chez Bichtav, Torah chez Balpé. Cette racine, elle est là dans le couple Yaakov-Esav. Au moment de leur conception, en vérité, Yaakov correspond à la Torah chez Bichtav. C'est-à-dire son lien avec la Neshama. Et Esav, qui est entièrement corps, quand il naît, il est déjà complètement fait, etc. Il s'appelle Esav, la Shon Asiya. D'accord. Il appartient entièrement au monde d'en bas. Et maintenant, quelle est la fonction d'Esav? C'est de dévoiler dans le monde de la Asiya, dans le monde matériel, la lumière de Yaakov. C'est-à-dire le dévoiler, son travail, c'est dévoiler la Torah chez Balpé. La dévoiler dans le monde matériel, en fait. Le Harizal explique comme ça le pasuk qui dit Vayehav Yitzhak et Esav, que Yitzhak a aimé Esav, Kitsaïd Befiv, parce qu'il avait le fruit de la chasse dans sa bouche. Le Harizal dit pourquoi il l'a aimé. Il l'a aimé parce qu'il a vu que la neshama de Rabbi Akiva, elle provenait de la descendance d'Esav. On sait que Rabbi Akiva était un Ben Guérim, et il est le père, Rabbi Akiva est le père de la Torah chez Baal Peh. Bon, il est pour la Torah Sheba Peh, ce que Moshe Rabbeinu est pour la Torah Shebichtav. Et le pasuk qui dit l'aimé qui tsaïd befiv, c'est-à-dire c'est la Torah Sheba Peh, befiv. La Gemara, elle dit que toutes les Mishnayot sont toujours Kulu Alibé de Rabbi Akiva. Effectivement, ça vient de Rabbi Akiva. Et la Gemara, elle dit, dans Yevamot, elle dit que le monde, il était désolé au sens de nul, vide complètement, jusqu'à que vienne Rabbi Akiva et qu'il aille enseigner à nos maîtres du sud. Le sud, c'est la Chokhma. Et ça a produit les cinq, d'après d'autres, c'est sept maîtres qui ont répandu toute la Torah dans le clan d'Israël. Le problème, c'est que tout ça, c'était beau et bien si Esav avait joué son rôle. Bon, le problème, c'est que Esav n'a pas été d'accord de jouer son rôle. Il ne joue pas son rôle. Alors, Yaakov est obligé de jouer son rôle à lui aussi. Donc, pour jouer son rôle, il faut prendre sa place. Prendre sa place, ça a été lui acheter le droit d'aînesse. Mais dans le shoresh, dans la racine, au départ, tout ça, la Torah chez Baal Peh, c'était chez Esav qu'elle devait être. Parce que c'est comme ça qu'on arrange le corps. Comme Esav, c'est l'aspect corps, donc il est celui qui aurait dû, justement, faire sortir la lumière, en faire sortir la lumière. Ça, c'est le premier... C'est une première couche de signification. Maintenant, on peut aller un petit peu plus profondément. Parce que on peut se poser la question, mais finalement, quand même, comment se fait-il que Yitzhak se soit trompé sur Esav? Il n'a pas pu se tromper. Yitzhak ne se trompe pas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Yitzhak a vu que Esav, c'est un mida, c'est la Gvura, c'est la même que la sienne, que celle d'Yitzhak. C'est-à-dire, or Yitzhak, en vérité, il est la forme aboutie de l'homme. C'est celui dont le corps est à ce point purifié que lui, il est déjà prêtri à Tametim. Le Harizal, il explique que les lettres du mot Yitzhak, c'est Ketz Chai, c'est-à-dire celui qui est vivant après Triat HaMetim, après le Ketz HaYamim. Ça veut dire que le corps qui a été donné dans le monde d'en bas, le corps, le but, son but, c'est que Hachem accepte qu'il y ait une transformation du corps qui fasse que Hachem accepte en vérité que cette forme dans le monde d'en bas corresponde bien à la forme idéale du Adam d'en haut, bien qu'il soit matériel. Et comment c'est possible? Il est matériel, mais si le matériel en question s'annihile littéralement, il se met totalement au service du spirituel. Donc si le corps se met tout entier au service de la Neshama, Alors la lumière de la neshama va illuminer le corps. Et donc le corps, illuminé par cette lumière-là, il devient éternel. Donc il sort de la mita, il sort de la mort. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, qui normalement n'est pas Meyached Shmo sur quelqu'un de vivant, sur Yitzhak, il accepte. Parce qu'Yitzhak, il est de son vivant, il est entièrement avoda, il est entièrement battel complètement à Hachem. Il est, en vérité, comme on sait, Yitzhak Avinu, d'une certaine manière, il est le Korban Tamid de Ben Arbaim. Parce que c'est marqué que qu'est-ce qui se passe avec le Korban Tamid de l'après-midi? Bon, une fois qu'il est brûlé, il est brûlé, sur le Mizbeach. Alors, on sait très bien qu'il a été metaken la tfilah de Mincha. Et on a trouvé une urne dans laquelle c'était marqué cendre de Yitzhak. C'est pas que Yitzhak a été brûlé, mais il y a eu substitution du bélier. Et les cendres de ce bélier sont appelées les cendres d'Yitzhak. Or, cette lumière de Yitzhak, elle doit se réaliser dans ce monde. Alors, cette Mida-là, Akadosh Baruch Hu attribue au corps des hommes, des êtres humains, et à un corps humain, donc, et à laquelle il a d'accord d'attacher son nom. Ça devait se réaliser concrètement par le couple Yaakov et Esav. Depuis son rêve, depuis sa racine, Yaakov, il devait être celui qui doit dévoiler le haut niveau uniquement. Esav, il est le corps, il doit faire en sorte que ce corps se purifie complètement et qu'il devienne quasiment spirituel. Il a pas quasiment, il disparaît dans au service de la Neshama. D'après ce qu'on a vu ici, c'est ça le dévoilement de la Torah chez Baal Peh. La Torah, elle s'exprime par le corps. Après que les choses soient complètement dévoilées, sorties, elles soient sorties du LM, il n'y a plus de différence entre la neshama et le corps. Alors la Torah chez Baal Peh, elle devient elle aussi une espèce de chefsa de Torah chez Birtav, une réalisation de la Torah chez Birtav. Et la Torah de Rabbi Akiva, qui provient des Saves, c'est une Torah qui vient du corps, qui a le corps qui reçoit la lumière de la Neshama. Et le Midrash dit sur Rabbi Akiva que des choses qui n'ont jamais été dévoilées à Moshe Rabbeinu l'ont été à Rabbi Akiva. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été données au Sinaï, bien sûr. Ils ont été dans le Sinaï, mais disons de façon compacte, si on veut, ou bien au niveau des racines. Mais Rabbi Akiva, il a amené ça, il a actualisé les choses complètement. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu dit. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il dit quand il voit ce que produit Rabbi Akiva, il dit Hachem, mais yesh lecha adam kaze bata Vakesh Litentora lui a dit, quand il a vu les efforts de Rabbi Akiva, il a compris que Rabbi Akiva était un père, un av de la Torah. Donc il pense que c'est par lui que la Torah devrait être donnée. Voilà, on va s'arrêter là. On verra ça la suite, la prochaine fois. Vous savez probablement, peut-être pas exactement qu'est-ce que ça a à voir avec Purim, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous verrez ça un peu plus tard. Je vais juste vous soumettre donc à la réflexion cette histoire de le fait que on doive boire et arriver à ne pas distinguer entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Donc, comme on a déjà parlé, je vous invite à réfléchir sur ce que ça peut bien vouloir dire. Parce que, bon, c'est vrai que les deux mènent à la libération de Bnei Israël. Mais est-ce que c'est vraiment indifférent? Et on voit qu'il faut quand même boire un peu pour arriver à pas faire la différence. Mais comme on avait dit, sans vouloir entrer dans la polémique, est-ce que c'est la même chose que Arour Poutine et Baruch Zelensky? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que peu importe que ça se passe comme ci ou comme ça? Enfin bon. Je ne sais pas si l'exemple est un bon exemple, mais enfin. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, Rav Ronstein.
À la prochaine fois.
Merci, bonsoir.
Merci, Rav Ronstein.